Les quarts de finale du BNC Tennis Open se jouent aujourd'hui. Le premier match a démarré aux alentours de 16h30. Vous le savez, on va retrouver Léo Fichou dans un instant avec ses invités pour la table ronde quotidienne en direct des cours du Wentoro. C'est peut-être l'occasion, Léo, avant de commencer votre émission, de nous donner le score actuellement entre Jordan Thompson, la tête de série numéro 1, et Youri Rodionov.
Oui, bonsoir Jean-François. Le score 3 partout dans le premier set entre Jordan Thompson, donc l'Australien, vous le disiez, tête de série numéro 1, et Youri Rodionov, tête de série numéro 5. L'Autrichien, match très serré, hein. Ça joue 25 minutes déjà, 3 partout, et c'est Jordan Thompson qui est au service. Donc une nouvelle fois en direct du BNC Tennis Open, une nouvelle émission, un nouveau plateau. Je suis toujours accompagné de Lionel Tri, bonsoir.
Salut.
Et pas mal de monde encore une fois autour de la table. On a la chance d'avoir avec nous Stéphane Crétois, le superviseur de l'ATP, bonsoir.
Bonsoir.
Et le directeur adjoint de ce BNC Tennis Open, Thomas Schwerz, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Petite question déjà, monsieur le superviseur. Ce tournoi, c'est pas la première fois, vous êtes un habitué déjà de Nouméa. Racontez-nous un peu votre histoire avec Nouméa, avec ce BNC Tennis Open.
Ben, ça s'est créé en deux temps. J'ai commencé il y a longtemps ici. Je me souviens plus exactement les années, mais c'était sous l'ère de Marc Ledru. J'ai dû faire 5 ou 6 années d'affilée. Et puis il y a eu une période de creux. Et puis là, je suis revenu depuis les années Covid. En fait, j'ai dû faire les 4 dernières années. Voilà, donc j'ai le plaisir de revenir. J'ai la chance d'être redésigné par l'ATP tous les ans, ce qui est un plaisir.
Oui, et chaque joueur qui vient à Nouméa nous fait des éloges sur le tournoi, a envie de revenir. Vous aussi, en tant que superviseur, vous le dites, c'est un tournoi où on a envie de revenir.
Ouais, c'est un plaisir, pas simplement à cause de la localisation, mais aussi parce que l'atmosphère, on sent l'envie et le plaisir des locaux d'accueillir. Je crois que c'est vraiment, moi je vois bien les bénévoles qui tournent autour des joueurs, tout ça, et qui les approchent avec gentillesse. C'est assez, peut-être pas unique, mais enfin, ça fait plaisir à voir. Oui.
Une petite question peut-être pour les gens qui nous écoutent, qui connaissent pas trop le tennis. Au niveau des juges d'arbitres de chaise, je sais qu'il y a des catégories gold, silver, etc. Est-ce que là, les catégories des arbitres qui sont là, c'est quelle catégorie?
Alors cette année, on a la chance d'avoir un arbitre badger, ce qui est pas toujours sur les challengers, loin de là, sur toute cette catégorie. Donc Manu qui est en ce moment sur le match de Jordan Thompson, qui est badger, comme à l'époque Kader Nouni était venu,
voilà,
là, était passé.
Un catalan comme moi.
Exactement. On est aussi pour compléter l'équipe, un badge argent et 3 badges bronze. Donc c'est une équipe assez solide en fait.
Comment on peut obtenir ces badges, ces différents badges? C'est une carrière qui se fait au fur et à mesure des années?
Oui, alors il y a quelques examens, ce que la Fédération internationale appelle des écoles. Vous passez au travers d'une école, si vous réussissez l'examen, on vous donne un badge. C'est un peu comme les médailles olympiques, vous savez, blanc, bronze, argent, or. Et donc les arbitres, on passe le blanc, ensuite le bronze, et ensuite c'est principalement l'expérience qui leur vaut le fait d'être encore upgradé et d'atteindre les niveaux de argent ou or.
Quand il y a des soucis, je me rappelle une époque qu'il y avait eu un Albandian et Kader à Melbourne. Est-ce que ça peut jouer sur le fait de monter de badge, même s'il n'a pas fait d'erreur? Est-ce qu'il y a des commissions? Est-ce que ça peut jouer aussi de ne pas monter assez vite, des choses comme ça?
Ça n'est pas que ça, mais effectivement, c'est comme un joueur de foot qui est assis sur le banc toute l'année. Le jour où on lui donne le maillot, s'il joue bien, il a une chance de garder le poste. C'est un peu ça, donc ça marche un peu de la même manière.
D'accord.
Merci beaucoup pour ces quelques minutes. Peut-être une dernière question sur l'environnement, sur le cadre de ce tournoi, sur le Challenger de Nouméa. On en parlera juste après avec Thomas Schwerz, le directeur adjoint. Les installations de ce tournoi pour l'ATP, c'est à chaque fois des bonnes notes qui reviennent.
Alors, je vais être honnête, je suis là pour ça. Oui et non.
Ah.
C'est un sujet
sensible.
Mais comme on a un projet de développement à venir qui est vraiment prometteur, ça va aider le tournoi à répondre dans l'avenir aux attentes de l'ATP. Et donc je suis pas du tout inquiet en fait. C'est ça qu'il faut dire. C'est ça le plus important. Moi je suis pas du tout inquiet. À partir du moment où on sent que l'énergie, la synergie va dans le même sens, je suis extrêmement positif.
Voilà. Ce que disait, on va finir peut-être avec ça. Ce que disait Olivier, c'est que le cahier des charges quand même est de plus en plus compliqué.
Olivier Ledain, l'ancien directeur du tournoi.
Voilà. Absolument. Et c'est vrai qu'on a redescendu. Ça veut pas dire qu'on est descendu de niveau de 100 000 à 75 000, mais c'est vrai que le cahier des charges est de plus en plus lourd quand même. Hein.
C'est sûr. Il y a des choses qui se rajoutent parce que le circuit aussi tend vers davantage de professionnalisation et donc demande plus d'attention. Et donc ça implique souvent encore davantage d'investissement. Oui, c'est vrai.
Ok. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions de nous avoir accordé ce temps.
Merci.
Thomas Schwertz, le message est passé. Il faut travailler encore et encore pour développer ce tournoi, ce BNC Tennis Open.
En fait, répondre aux exigences à chaque fois, justement faire en sorte qu'on soit au niveau. Et c'est quelque chose qui nous permet de rester dans au même niveau du monde, finalement. Donc c'est une bonne chose.
Et alors, justement, sur le travail qui est fait, sur les changements, qu'est-ce que l'organisation du tournoi peut faire chaque année pour faire évoluer ce tournoi? On a dit on a reculé sans vraiment reculer, passant d'un 100 000 à un 75 000. On a toujours un beau tableau ici au BNC Tennis Open. Qu'est-ce qu'on peut faire entre les différentes éditions?
Ce que j'aimerais rappeler, c'est qu'en fait, l'année dernière, on avait déjà un tableau qui correspondait à un 75. Et là, on a un tableau qui peut correspondre à un 100. Donc, ce ne sont que des chiffres. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Finalement, je dirais simplement répondre aux exigences, travailler pour, solidifier l'équipe, la développer et continuer d'y croire, tout simplement. Et en faisant ça, je pense qu'on va pouvoir faire correspondre les attentes et les réalisations.
Surtout, vous connaissez bien du coup l'envers du décor, parce qu'on vous voit depuis des semaines courir à droite, à gauche. Votre poste, il est polyvalent.
Alors, c'est un vrai poste de couteau suisse. C'est assez sympa, c'est une vraie expérience. Moi, j'ai été prestataire depuis 2019 sur le tournoi, et finalement, cette année, c'est une chance et une opportunité. Donc, on a hâte de l'année prochaine, et on sait que les énergies sont là pour. La nouvelle équipe est complètement opérationnelle pour répondre à tout ce qu'il faut. Donc, heureux de travailler avec.
Une belle équipe, et parmi cette équipe, dans la centaine de personnes, peut-être plus de 100 personnes qui travaillent sur ce tournoi, il y a les kinés qui sont aussi présents, les soins, tout ce qui est médical. On a la chance d'en avoir un avec nous aujourd'hui sur le plateau. Je veux pas me tromper sur
Jordan Le Drian. C'est un copain qui joue pas bien au padel, mais c'est Jordan Le Drian.
Mais qui soigne bien.
J'espère. Hein.
On fait tout pour en tout cas.
Jordan, parlez-nous un peu de votre rôle de kiné. Comment ça se passe? C'est vous qui allez vers les joueurs? Les joueurs viennent vous voir, vous demandent, vous réclament, ont besoin des soins après les matchs, avant?
Oui, c'est ça. Il y a un gros travail de récup, notamment pour la plupart des joueurs. Ils viennent. On a une salle qui est dédiée pour en bas. Énormément de joueurs viennent quand même nous voir parce que malgré que ce soit le début de saison, l'intensité est quand même hyper intense, que ce soit sur les entraînements, sur les matchs, avec la chaleur, etc. Donc c'est notre rôle derrière de donner tout ce qu'on peut pour que les matchs soient pour qu'arriver au match soit le plus performant possible.
Est-ce que tu peux prévenir la personne qui risque de se blesser? Est-ce que tu as déjà des cas, tu es en train de masser quelqu'un et tu dis attention, tu risques de te blesser si tu joues? Est-ce que tu peux annoncer un joueur?
Ouais, tout à fait, il y a une partie diagnostique qui est aussi importante, que ce soit en dehors du terrain comme sur le terrain. Quand on intervient sur des blessures aiguës qui viennent d'arriver sur le terrain ou autre, on a aussi ce rôle de conseil, ouais, tout à fait, auprès des joueurs, parce que ils tous n'ont pas la chance d'avoir un physio avec eux sur l'année. En dehors de ça, voilà, c'est surtout ce travail de récupération qu'ils viennent chercher avec nous aussi.
Alors moi, je vais te poser une question, parce que c'est mon kiné entre guillemets entre Godzone et lui, c'est mon kiné. Il me fait un truc, je sais pas si tu peux en parler, une nouvelle technique avec l'aiguille là qui te transperce le muscle à te faire hurler. Et ces nouvelles techniques, je sais pas si tu peux expliquer un peu, à la fois acupuncture, tu vas chercher le nerf, je sais pas si tu peux expliquer.
Oui, c'est de la ponction sèche.
Vous êtes deux, c'est ça? Deux sur le territoire à faire ça?
Oui, je crois que c'est ça, ouais. Pour le moment, c'est de la ponction sèche ou du dry needling. Alors pour le tournoi, on l'utilise pas, c'est contre-indiqué.
On peut le dire, c'est pour les joueurs amateurs comme Lionel.
Voilà, exactement. C'est assez nouveau. Ça marche plutôt très bien. C'est à viser pareil, antalgique, décontracturante. Mais on l'utilise pas pour le tournoi. Là, on utilise plutôt nos mains, un type massothérapie, thérapie manuelle. Voilà, surtout ça.
J'ai à côté de moi Jalan Salin-Wilman qui a disputé les premiers matchs de ce tournoi, les qualifications. Les kinés sur des tournois comme ça, c'est important, vous allez les voir, vous en avez besoin quotidiennement?
Beaucoup de joueurs vont les voir, moi j'y suis pas allé, mais j'aimerais bien faire une séance juste après vu ce qu'il m'a dit.
Ouais, c'est vrai qu'on l'a
mais,
pas vu.
Ouais, il y a beaucoup de kinés et ça fait toujours plaisir d'en avoir sur les tournois.
Comme vous le disiez, même si vous y êtes pas allé, c'est quand même rassurant de savoir qu'ils sont là.
Ah, même quand si on se blesse sur le terrain, c'est toujours rassurant de voir des kinés qui sont là, prêts à nous soigner, quoi.
Oui, toujours présent. On le disait pour Thomas Schwer tout à l'heure, le directeur adjoint. C'est la course. Vous aussi, pendant 10 jours, c'est la course ici au BNC Tennis Open, où vous arrivez à cadrer un peu tout ça quand même.
Oui, on arrive quand même à être assez performant. Pareil, les joueurs viennent nous voir vraiment quand ils ont envie. Typiquement, avant-hier, c'était mardi soir, Clément Tabur, fin de match à 23h15. Derrière, il a besoin de sa récupération. Donc jusqu'à minuit, on était en salle. Pour faire en sorte qu'il soit dans les meilleures conditions pour attaquer le lendemain.
Justement, parlons-en de ces rencontres. On va faire le point sur les quarts de finale de ce tournoi. Le premier quart de finale qui a donc débuté, Yuri Rodionov qui mène 4-3 face à Jordan Thompson. L'Autrichien vient de breaker l'Australien. De très beaux quarts de finale. On s'attendait peut-être pas à ça au vu des premiers tours, les premières éliminations. Finalement, 5 des 8 têtes de série sont là.
Oui, carrément. Là, après le match Thompson-Rodionov, on va avoir le Français Clément Tabur qui est opposé à l'Américain Zhang. Donc, il va être un super match. C'est le seul Français qui reste et on espère qu'il va aller jusqu'au bout. Mais voilà, il va avoir des bons matchs. Il y a aussi Tomic et Eli. Ah oui, j'ai oublié l'autre Français parce que je vais un peu trop vite. Arthur Gia, je suis en train
de faire.
Qui aura fort à faire sur la tête de série numéro 2, le Canadien Drax. Donc voilà, les deux matchs pour moi qui vont être bien, c'est voilà. Tabur et Arthur.
Il faut suivre les Français, les encourager. Et on a un supporter fidèle qui est avec nous ce soir sur le plateau, Louis. Bonsoir Louis.
Bonsoir.
Vous avez suivi pas mal de rencontres cette année sur le BNC Tennis Open. Les bons joueurs sont là, on peut le dire comme ça?
Les beaux joueurs sont encore là, surtout les deux Français que on espère voir gagner et aller si possible jusqu'au bout.
Justement, ce BNC Tennis Open, si vous venez, c'est pourquoi? C'est pour le spectacle, c'est pour l'ambiance, c'est pour les joueurs?
Les deux, le spectacle surtout, on se retrouve avec les copains, on regarde les matchs et on fait ça tous les ans depuis des années.
Et parmi toutes ces années, parmi tous ces joueurs que vous avez croisés, est-ce qu'il y en a un peut-être qui a marqué vos passages ici au Wentoro?
On se souvient toujours de Gilles Simon quand on était petit, qui est venu et qui a gagné 2 années consécutives et le premier à avoir gagné, Guillermo Cañas. On était pour les plus jeunes.
On remonte dans les souvenirs et dans les années, Lionel Tri.
C'est un ancien élève vraiment, hein, un ami dont il adore le tennis et c'est un gros joueur de tennis. Louis, je sais pas si tu as fait les qualifs ou pas. Tu as déjà fait les qualifs?
Non, jamais.
Tu n'as jamais fait les qualifs. S'il y avait un favori des quatre de quart, pour toi, si tu les as vus un peu tous, lequel t'impressionne le plus ou quelle est la personne que tu vois gagner?
Alors moi, Jordan personnellement, mais le Canadien, Jordan Thompson exactement, mais le Canadien Liam Drax qui est hallucinant sur le terrain par son énergie qu'il dégage quand il joue.
Oui, d'ailleurs, on peut le dire, hein, face à Moira Nibusij. C'était un peu facile pour lui, malheureusement pour l'Australien qui a peiné, qui était finaliste l'an dernier, qui s'est retrouvé face à un mur, il faut le dire, Liam Draxler hier, qui était exceptionnel sur le court.
Ah ouais, carrément. Dans tous les cas, on voit à un moment donné, certains joueurs, ils haussent leur niveau, ils veulent peut-être pas rester longtemps, ils savent que de rester longtemps, ça va utiliser l'énergie. Donc voilà, on rentre dans le money time, si on peut appeler ça comme ça. Voilà, les quarts de finale, maintenant, ils savent qu'encore 2-3 matchs et si je me trompe pas, c'est 90 points pour le vainqueur du Challenger, Jalan.
75 points pour le vainqueur, c'est énorme dans un classement qui se joue à pas grand chose, on le disait souvent, entre la 150e, 200, 300e place. Quelques points servent à grappiller de nombreuses places.
Alors ce que j'ai su l'année dernière par Benoît Paire, c'est qu'il donne de moins en moins de points pour les futurs et les challengers, parce que ils veulent pas qu'il y ait un trop gros écart entre les gens qui rentrent dans la centième place et qui ressortent aussi vite. Donc ils disaient qu'ils avaient vraiment raccourci les points. Peut-être Jalan va le dire. Et c'est vrai que ils veulent augmenter les gains pour qu'ils gagnent de l'argent, parce que c'est dur de gagner de l'argent entre la 150e et la 400e. Les joueurs gagnent très peu d'argent. Il faut pas se leurrer. Mais ils augmentent les gains, mais ils ont diminué la façon de gagner des points, qui pour moi a double tranchant. Je sais pas ce que t'en penses, Jalan.
Franchement, je l'ai pas trop regardé, mais oui, les points sont très durs à prendre, en tout cas en futur et en challenger en ce moment. Les gains sont très peu en futur, mais en challenger, en tout cas, c'est un peu mieux quand même.
Oui, on l'entend souvent, hein, sur les interviews d'après-match ou des tournois, les joueurs qui se plaignent forcément de dire qu'entre la 200e et 300e place, on ne vit pas d'une saison. Il faut payer l'équipe technique, les entraîneurs, les soins médicaux, les voyages et tout ça. Jalan, vous le connaissez pas, peut-être pas encore, parce que vous êtes pas, votre carrière n'est pas encore lancée comme tous ceux qu'on voit. Vous êtes encore jeune, vous avez le temps de progresser et tout ça. Mais vous l'imaginez, pouvoir voyager toute l'année, est-ce que vous êtes déjà pensé à tout ça?
J'y pense tous les jours, j'en parle beaucoup avec les joueurs, je leur pose beaucoup de questions. Arthur Géa, qui est un très bon ami, m'en parle souvent, donc j'imaginerais bien me faire ça, mais je n'ai pas encore le niveau.
Si je ne veux pas me tromper, moi, il m'avait dit à l'époque, ceux qui étaient dans les tournois vers les 200, c'est à peu près, avec un coach sur l'année, c'est entre 60 000 et 80 000 euros l'année avec un joueur et un entraîneur. Sachant qu'il ne dort pas dans des hôtels de luxe, attention, hein, c'est le strict minimum, hein, ce que je dis.
Et là, justement, on parle d'argent, il faut un peu, Thomas Schwert, sur ce tournoi-là, est-ce qu'on a un peu des idées de ce que ça peut représenter, les joueurs quand ils viennent, les gains peut-être, est-ce qu'on a une notion d'argent sur ce tournoi-là?
Alors, c'est une notion qu'on n'aborde pas forcément, on voit leurs gains justement sur le site de l'ATP en live, on sait ce qu'ils gagnent. Mais par contre, nous, on sait ce qu'on prend en charge. On fait en sorte qu'ils soient accueillis, et le reste, les frais de cordage, les frais de voyage sont à leur charge, ce qui effectivement représente une belle somme. Maintenant, il me semble bien que l'année dernière, on est quand même sur des gains. Ils prennent 17 000 dollars
pour le vainqueur du simple.
Pour le vainqueur, et le reste de la somme est réparti.
Voilà, alors, donc, Lionel.
Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand les joueurs y viennent, la prise en charge du tournoi se fait, il me semble, un jour avant au niveau de l'hôtel.
Exactement.
Et tant qu'ils sont dans le tournoi, ils ne payent pas la chambre d'hôtel. C'est pour ça que souvent, les joueurs, ce qu'ils font, c'est ce qu'ils s'inscrivent en simple et en double. Même s'ils sont pas bons en double, ça leur donne une chance de rester peut-être un peu plus de nuit.
Exactement.
À l'hôtel, et de préparer leur billet d'avion s'ils perdent au premier tour ou deuxième en simple, ce qui peut leur permettre de pas payer la nuit d'hôtel, qui est une charge.
C'est une réflexion permanente, du coup, sur les transitions entre les tournois, les voyages, les changements.
C'est une vraie organisation. C'est pour ça que nous, on essaie de s'appuyer sur ce qu'on appelle un concierge qui va essayer de gérer tout leur départ, leur arrivée, pour que ce soit le plus confortable possible. On a la chance ici d'être à proximité de l'hôtel, donc il n'y a pas de transfert. Mais on a aussi la malchance d'être loin de l'aéroport. Donc grâce à nos partenaires, on fait en sorte qu'ils soient le mieux reçus possible et qu'ils soient le plus confortable pour eux. Ce qui fait vraiment une force pour le tournoi.
On parlait alors des gains, on peut, puisqu'on les a trouvés, on les a sous les yeux. Le vainqueur du simple remporte 17 000 dollars.
Ouais.
Le finaliste, 9 600 dollars. C'est pas rien, mais
c'est pas énorme.
Qu'est-ce que ça représente par rapport à un transport jusqu'à Nouméa, un transport puis ensuite pour aller jusqu'à l'Open d'Australie? Voilà, c'est aussi cette question-là qui fait, on en parlait tout à l'heure avec le superviseur de l'ATP, d'augmenter, baisser le niveau du tournoi.
Ce qui est sûr, c'est que les joueurs qui viennent faire le tournoi de BNC Challenger BNC de Nouméa, les 80-90% suivent à Melbourne parce que ils vont économiser le trajet. Ils vont faire, évidemment, je donne un exemple avec un Français, il va faire le trajet France-Nouméa et Nouméa-Melbourne. Personne va venir s'il est 600 ou 700e juste pour faire le trajet Nouméa qui va lui coûter très cher en billet d'avion, hôtel, repas, etc. Sauf s'il a des challengers dans les alentours. Donc, tout est calculé. Il faut savoir qu'avec les entraîneurs ou lui-même, il prévoit ça au moins 2-3 mois à l'avance. Hein, et ça se prévoit pas une semaine.
C'est vraiment stratégique pour eux de bien choisir, de bien s'organiser pour optimiser au mieux les gains et les dépenses.
Alors, on va refaire un petit point sur les différentes rencontres qui sont en train d'être joué sur les cours. On est toujours tous les quatre autour de la table. Lionel Tri qui est avec moi, Thomas Schwert et Louis, le plus fidèle des spectateurs du tournoi depuis de nombreuses années. On parle souvent du simple, mais il faut pas l'oublier. Il y a aussi un tournoi de double à côté, avec là aussi les demi-finales. Donc ce soir, la paire chinoise Kushuhara contre Kushuhara Nakagawa, qui a remporté le premier set face aux néo-zélandais Reynolds et Watt. Un premier set remporté, c'était assez serré au tie-break, Lionel.
Ouais.
Ça promet pour une finale, comment ? Japonais ? Je me suis trompé.
Oui, japonais.
Les japonais ?
Deux japonais.
Deux japonais contre deux néo-zélandais.
Néo-zélandais.
Exactement, qui jouent la demi-finale. Donc un premier set très serré, accroché. Un premier set qui semble un peu moins accroché du côté du simple, puisque Jordan Thompson est mené 5-4 et Rodionov a une balle de 7. Deux balles de 7 même, Lionel Tri, ça y est, c'est un petit tournant peut-être dans cette rencontre.
Ouais. Sachant qu'il y a du vent, comme je le dis souvent, c'est un vent tourbillonnant sur le terrain numéro 1 et 2 du Challenger. Ça met pas en valeur les gros serveurs. Mais ça nivelle le niveau dès qu'il y a du vent. Hein. Donc c'est sûr que là, on vient de voir, il a fait un retour avec du vent, il était accroupi.
C'est terminé.
Et en plus, il vient de perdre le set. Donc voilà, le vent ne met pas en valeur les gros serveurs, ça bon, c'est sûr.
Louis, je reviens vers vous. Vous parliez de Jordan Thompson parmi vos favoris. Ça coince un peu ?
Ça coince un peu, mais il pourra revenir.
C'est vrai qu'une partie n'est jamais terminée. 3-7. On va peut-être parler aussi des autres rencontres qui vont suivre. puisque pour le moment, on a commencé donc avec le premier quart de finale du simple, la première demi-finale du double, et enchaîneront donc deux autres quarts de finale. Thomas Schwerdt, est-ce qu'on peut parler de ces deux quarts de finale qui vont suivre juste après? Michael Zeng, tête de série numéro 6, l'Américain contre Clément Tabur, le Français qui a remporté son huitième de finale, c'était hier contre Tito Ndrogué.
Ce que j'entends partout, c'est que Zeng est très 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 solide, et il y a forcément un affect pour le Français Clément Tabur.
L'Américain qui est resté que 2 heures sur les cours, alors que le Français a déjà passé plus de 4h30.
Ouais,
ça peut jouer aussi, ça peut faire une différence.
Oui, je pense. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de soleil. Donc au niveau chaleur, déjà c'est bien pour eux. Le temps est assez frais. Donc je pense que c'est déjà bien pour Clément. Mais c'est vrai qu'il a fait le double au niveau de tout ce qui est sur le terrain, sur les jeux. Ouais.
Oui, et en plus avec des matchs accrochés, Louis. Oui,
match accroché. Le premier soir, il termine à 23h. Et comme disait Jordan, séance de kiné jusqu'à minuit et demi. Donc je pense que oui, physiquement, il doit être impacté, mais.
Mais comme il disait, un gros match. Et comme il disait, voilà, il se sent bien quand même ici, puisqu'on va le rappeler, il a participé la semaine dernière. Arthur Géa, qui jouera aussi en quart de finale, et Clément Tabur ont joué le BNC Catherine Bonnet. Ce sont les deux derniers rescapés, Thomas Schwerdt, de ce tournoi. On s'est posé la question plusieurs fois, est-ce que ce tournoi est bénéfique pour les sportifs? Oui ou non? C'est un peu mitigé, ça peut être oui et non.
Alors oui et non, après comme on l'a dit tout à l'heure, le public hédonien les accueille, les chouchoute, et forcément ça donne de la force. Et d'être venu un peu en amont, ça permet qu'ils soient beaucoup plus solides, et ils se sentent entourés en fait, ils se sentent portés. Donc ok, il y a la fatigue physique, ok, il y a des concurrents en face qui sont solides, mais ils sont portés par un public qui les aime beaucoup.
Après, moi, je pense que c'est bien parce que c'est vrai, comme il dit Thomas, ils se préparent en avance, ils anticipent le décalage horaire qui vont pour être vraiment au top pendant le Challenger. Et derrière ça, c'est un format de match, il faut le rappeler, c'est en 4 jeux. Donc, ça veut dire 2 sets de 4 jeux où le troisième set, c'est un tie-break. Donc, ce n'est pas quand même des grosses parties où ils vont laisser beaucoup d'énergie. Et je pense que ce qui est bien pour le tennis calédonien, ça permet aussi aux joueurs calédoniens de se frotter avec eux. Et en mémoire à Catherine Bonnet par rapport au swimming, moi, je trouve ça... très bien.
Oui, c'est une belle chose. J'avais juste ce petit doute sur le fait d'enchaîner les rencontres. Si c'est pas trop avant un challenger comme ça.
Sur ces formats de jeu, non, ça va. C'est assez court quand même.
On verra sur les cours alors s'ils sont pas trop épuisés. On en avait parlé en début de semaine, Lionel Tri, sur vos pronostics. On approche de la fin. Est-ce qu'on peut avoir un nouveau pronostic maintenant qu'on a les 8 derniers, sachant que aucun des 8 quarts de finalistes n'a remporté la compétition. Donc il y aura forcément cette année un nouveau vainqueur.
Ça, c'est une très bonne chose. C'est une super chose qu'on aurait aimé voir Moerani aller jusqu'au bout et défendre, ou en tout cas aller plus loin. C'est un peu dommage. Mais en tout cas, on aura forcément une nouvelle marche avec un nouveau nom à mettre, et quelqu'un qui potentiellement va revenir l'année prochaine pour défendre son titre.
Et parmi tous ces joueurs-là, il y a quand même des joueurs qui ont fait des petites perfs ici à Nouméa. Je les ai notés. Jordan Thompson et Yuri Rodionov ont déjà fait une demi-finale à Nouméa. Blake Ellis, qui affrontera Bernard Tomic, un duel 100% australien juste après, avait atteint les huitièmes de finale en étant passé par les qualifications. Ça aussi, c'est une belle performance de sortir des qualifications. C'est toujours compliqué, Lionel Tri, de sortir des qualifs. On le voit, hein, c'est après deux matchs épuisants, début de week-end, de semaine, d'enchaîner après avec les rencontres face.
Alors, c'est à double tranchant. Ce qui est bien, c'est que de suite, t'es dans le bain quand t'arrives dans le tableau final. Ça veut dire que tu sais comment est le terrain, le vent, t'es déjà acclimaté entre guillemets. C'est sûr qu'il ne faut pas que les qualifs t'aient trop pompé d'énergie. C'est à double tranchant. Mais moi je trouve que quand t'as une bonne énergie, t'as eu un bon tableau et t'arrives dans un tableau final au premier tour, il faut faire attention à ces joueurs-là qui ont les dents longues et qui veulent vraiment attraper des bons joueurs et qui savent que les points sont importants. Donc il faut faire attention. Si la personne n'a pas trop laissé d'énergie sur les qualifs, faut se méfier de ces gens-là parce qu'ils ont les dents longues.
Et justement, est-ce que vous avez, messieurs, vous qui êtes autour de la table, des souvenirs de qualifiés ou de personnes qui ont participé à ces qualifications, qui par la suite ont réussi un beau tableau? C'est compliqué peut-être à dire. Vous, Lionel Tri, quand vous êtes passé par les qualifications,
Moi je me suis fait découper. Je me suis fait découper. Alors j'ai des souvenirs moi parce que j'adore le sport, pas sur le Nouméa. J'avais un joueur que j'adorais qui s'appelait Goran Ivazinevic, un croate qui avait un énorme service à Wimbledon, et il a toujours été en finale, il a jamais gagné. Et la dernière année où il joue, on lui offre une wildcard et il gagne le tournoi. c'était un peu la petite anecdote. Il avait une invitation et gagne Wimbledon. Donc voilà, après qualif.
Des qualifiés ou des invités aussi, parce que souvent les invités, il y a deux types d'invités, il faut le rappeler, de wildcard, c'est les petits jeunes, les locaux, mais il y a aussi des anciennes gloires qui sont aussi plus forcément dans le classement et qu'on réinvite pour venir dans les tournois. Ça aussi, ça peut jouer sur un tournoi. Comme il y a eu, j'ai plus les noms, mais il y a eu des très bons joueurs qui sont revenus ici à Nouméa. D'autres qui étaient un peu moins bons, qui, grâce à des relances comme le Challenger, ont pu continuer leur carrière. Ça aussi, ça peut jouer des joueurs comme ça dans un tableau, un wildcard surprise qui vient perturber un peu la hiérarchie.
Comme tu dis, c'est la surprise. Nous, on aime voir du beau tennis et on sait que le joueur à qui on fait une invitation presque a envie de se donner plus. Donc forcément, il va faire du spectacle.
Et le spectacle, donc oui, Lionel.
Alors celui-là qui risque de faire déjouer les gens, et je suis pas du tout fan de son jeu. Hein. Je dis pas qu'il faut pas venir le voir, bien au contraire. Il fait déjouer les gens. C'est Bernard Tomic. Hein. Ça veut dire que moi je le connais parce qu'il a sorti Vincent Millot, un pote à moi qui est à l'époque j'ai pu le suivre en tant qu'entraîneur à Melbourne. Il avait sorti Vincent au dernier tour des qualifs. Il a un jeu très lent, il met très peu de rythme, il accélère au bon moment, il casse le jeu, donc il fait vraiment déjouer les joueurs. Donc c'est un joueur un peu à part qui a quand même été 17e mondial. Il est resté, j'ai regardé son tableau de parcours, il a été 5-6 ans dans le top 50 mondial et depuis 7 ans il a du mal à revenir, même si l'année dernière il est resté à la 190e place, qui est son classement actuel. Mais voilà, c'est un jeu vraiment des 4 jeux qui est vraiment atypique, c'est Bernard Tomic qui fait vraiment déjouer les joueurs.
L'Australien qui affrontera son compatriote juste après le double qui est en train de se jouer, le deuxième set qui vient de démarrer, donc entre la, que je dise pas de bêtises, la paire japonaise et la paire néo-zélandaise. C'est
exactement,
ça Thomas Schwerdt.
Exactement.
Voilà. Louis, un petit dernier mot, petit loulou.
Non.
Non, mais merci d'être venu sur le plateau ce soir. C'était un plaisir de partager cette émission encore une fois avec vous. Il est jeudi, plus que 2 jours et demi, 3 jours avant la fin de ce tournoi. On va espérer que le beau temps soit de la partie jusqu'à la fin, Thomas.
On va arrêter de parler de la pluie, il y en a assez. Et là, on voit qu'il y a du vent, ça pousse les nuages, donc tout va bien se passer, c'est certain.
Et les tribunes commencent à être bien remplies ce soir.
Ça, c'est toujours un plaisir. Et oui, ça se remplit, on va avoir un super sunset grâce aux nuages, on va avoir des super matchs. Tout est parfait jusque-là.
Moi, je pense que sur la télé, tu devrais mettre les épisodes de la Cité d'Or pour garder le soleil, je pense. Les Cités d'Or, c'est pas mal.
Ça, allez, c'est une super idée encore. Merci.
Le message est passé jusqu'à la direction. Merci beaucoup, messieurs. Il est l'heure pour nous de vous dire au revoir et de vous donner rendez-vous demain soir, vendredi, pour la dernière de cette quotidienne entre 17h et 17h30 en
merci
direct
Léo.
Du BNC Tennis Open. Merci, messieurs.
Merci.
Bonne soirée.
Merci.